Merci de nous retrouver sur les antennes de Radio de la Paix. Nous sommes très heureux d'être avec vous. L'autonomisation de la femme dans sa généralité. On parle avec des personnes aguerries qui, justement, font les mains et les pieds pour que les femmes puissent fleurir, refleurir et s'autosuffire. Elles sont deux en studio avec deux autres qui les accompagnent. Yao Louise Claourou, bien habituée de ses antennes, créatrice de la marque Limas Air et Biori, c'est beauté, cosmétique naturelle pour les cheveux et le corps. Vous êtes avec nous depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Les choses évoluent progressivement, on est content de vous voir. Bonjour.
Bonjour, monsieur Bli.
Merci
d'être avec nous. Merci de me recevoir.
Au-delà de l'initiative, vous parlerez également de tout ce que vous faites pour accompagner des jeunes filles en termes de formation et puis, si quelquefois, vous formez des jeunes hommes. C'est l'occasion de nous le dire également.
Pas de problème.
Et puis, avec Philomène Kofi, présidente de l'ONG Jeunes Femmes, lève-toi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Bli.
Également, ça va bien chez vous?
Dieu fait grâce.
Détermination pour aider vos jeunes sœurs et on vous encourage vraiment. Alors, on va redéfinir le concept d'autonomisation de la femme. C'est perçu comment? Et est-ce qu'il y a des codes spécifiques? Est-ce qu'il y a une manière de travailler? Est-ce qu'on se bat comme on peut pour s'autosuffire? Claourou, ça se passe comment?
Alors, pour parler autonomisation, longtemps on a été cantonné sur l'autonomisation financière. Alors que malheureusement, ce n'est pas Madame Kofi qui dira le contraire. Quand on suit les jeunes filles, on se rend compte qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Vous pouvez donner de l'argent, puisque c'est de ça qu'il s'agit, à une jeune dame, à une jeune fille, et elle va vous retrouver 1 mois, 2 mois plus tard pour vous dire « Ah, finalement, je suis tombée ou j'ai tout perdu ou est-ce que vous pouvez m'accompagner à nouveau ?» Donc, c'est tout un lot qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est la jeune fille qu'il faut rééduquer très souvent à la gestion financière, mais aussi à la gestion de ses émotions, de ses envies, vie, à qui elle est. Donc, on va parler de développement personnel pour accompagner cette autonomisation financière-là. Parce que si on ne sait pas où on va, on fait du surplace. Donc, il faut vraiment pouvoir l'amener à se projeter pour qu'on parle d'autonomisation dans son entièreté, de façon holistique, pour ne pas seulement s'arrêter aux finances et puis se retrouver. Parce que vous avez des jeunes dames épouses qui finissent par aller donner l'argent à leur mari.
Pour gérer.
Et le monsieur, il va boire avec, ou il va faire ses affaires avec, et puis bon, vous retombez au même niveau. Donc, il faut prendre la femme dans son milieu. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est fiancée? Est-ce qu'elle vit en famille? Est-ce qu'elle est l'espoir de sa famille? Il faut prendre vraiment tout ce lot-là en compte afin de l'orienter convenablement. Donc, malheureusement, l'autonomisation financière des femmes a échoué, économique des femmes a échoué pendant longtemps parce que justement, on prenait la jeune fille, on la sortait là, comme ça, alors que non, il fallait prendre tout le lot en compte. Si elle a des enfants, si elle est mère seule, si c'est seulement elle qui éduque ses enfants. Si l'enfant tombe malade, que l'enfant, l'argent du commerce est là, elle va prendre l'argent, bon, aller soigner l'enfant.
Naturellement aussi.
Voilà, après, elle va vous dire, bon, mon enfant était malade. Bon, écoute, voilà, elle n'avait pas le choix en vrai. Donc, c'est vraiment de prendre la femme, donc c'est vraiment de prendre l'autonomisation, comme je l'ai dit, de façon très holistique pour prendre tous les contours de la chose.
Alors, c'est vrai qu'avec vous, on parlerait également de ce binôme, hein, vie économique, vie conjugale. On essaiera de voir un peu comment vous avez fait pour vous en sortir. Et puis, avec Philomène Kofi, on va revenir sur la même définition. Aujourd'hui, on a parlé d'autonomisation de façon économique. On se rend compte que ça, c'est un feu de paille dans bien des cas. Quelle est votre lecture?
D'accord, merci, monsieur Blé. C'est tout à fait... je pense que madame a tout à fait raison.
Yao Louise.
Voilà, Yao Louise, c'est ça. Désolée. Chez nous, par contre, on essaie quand même de mettre un accent sur l'autonomisation financière. Voilà. Mais il faille effectivement éduquer la jeune fille, éduquer même la femme, pour que le travail que nous faisons ne soit pas vain, en fait. Voilà, parce qu'on se dit aujourd'hui, la femme n'a pas eu cette chance-là d'être éduquée. Quand je parle d'éducation, d'être peut-être mise...
scolarisée.
Voilà, d'être scolarisée. Et donc, cet handicap-là, déjà, joue un peu, on va dire, sur la psychologie, sur même le comportement, voilà, de nos femmes aujourd'hui. Mais en même temps, pourquoi est-ce que nous mettons un peu l'accent sur l'autonomisation financière? On se dit de ce qu'elles n'ont pas eu droit à l'éducation, de ce que elles n'ont pas véritablement droit. Elles ont droit, mais l'ignorance fait que elles ne savent même pas que elles disposent de droits. Donc avec l'autonomisation financière et l'éducation que nous apportons à ces femmes-là, elles comprennent effectivement qu'elles sont elles-mêmes importantes. Quand je dis importantes, c'est-à-dire on est autonome d'abord pour soi-même, ensuite on est autonome pour sa famille, on est autonome pour la communauté et puis pour la nation. Donc, effectivement, on fait une éducation par derrière avant véritablement de parler de l'autonomisation financière.
Il faut pouvoir gérer ce qu'on a comme acquis, donc il faut être formé. On va venir à cette formation. Qu'est-ce qu'on entend par formation? Comment faut-il le former? On va démarrer déjà avec vous, Philomène Koffi. Comment on les recueille? Comment on les forme? Et puis on les insère dans le tissu sociétal et économique.
D'accord. Il faut dire déjà que la cible que nous avons choisie au niveau de notre organisation est une cible qui est, on va dire, analphabète.
Okay.
Voilà, donc comment donner une éducation à des personnes qui ne sont pas instruites, c'est pas facile. Donc déjà, c'est d'adapter la formation à leur niveau, c'est de les emmener à comprendre que c'est important pour elles d'avoir quand même une culture de l'autonomisation, une culture de ce qu'elles sont en train de faire. Parce qu'elles font de belles choses, mais par manque de stratégie, par manque de connaissances, vraiment, elles-mêmes, elles n'arrivent pas à considérer ce qu'elles mènent comme activité qui est censée les accompagner dans l'autonomisation. Donc, nous, déjà, c'est dans leur environnement qu'on les prend. On les met ensemble. On a ce type de formation avec des visuels. Voilà, pour les amener à comprendre comment comprendre leur environnement, l'environnement commercial dans lequel elles sont. Et ensuite, on met des stratégies à leur portée pour leur permettre de gérer ce qu'elles appellent activités génératrices de revenus. Et puis, comment mener une bonne gestion pour pouvoir véritablement s'en sortir.
Dans la faisabilité, vous avez rencontré qui ces derniers temps? Comment vous avez rencontré ces dames? Et puis déjà, sur combien de temps vous travaillez aussi?
D'accord. On a formé environ 200 femmes. On les a formées en gestion d'activités de revenus, c'est-à-dire en AGE, voilà, pour comprendre, pour comprendre leur environnement commercial. Et ensuite, on les a formés en épargne. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, l'un des problèmes qu'elles ont, c'est le problème de l'épargne.
C'est pas elles seules, c'est tout le monde. Parce qu'on dépose et on va chercher après, on redépose, on retourne chercher.
Oui, mais en même temps, comme elles sont notre cible et qu'on veut les accompagner vraiment pour une autonomie, on va laisser les autres et puis nous concentrer sur ces femmes-là. Donc, la formation se fait on les prend en une journée parce que ce sont des femmes qui n'ont pas le temps, en fait.
Okay.
Elles n'ont pas le temps, elles sont sur les marchés. Donc, on échange avec elles, on voit leur disponibilité, on leur prend une demi-journée, voire une journée si le temps leur permet. Et quand on finit de faire la formation, on a une activité qu'on a mis en place, une activité d'épargne. Monsieur disait tout à l'heure qu'effectivement, quand on dépose, après on est tenté d'aller prendre. Mais avec nous, elles ne sont plus tentées d'aller prendre parce qu'on leur a montré la stratégie de comment faire l'épargne et nous les accompagnons là-dedans.
Okay. Voilà. Vous avez sorti également un film dans lequel on a pu voir que vous entretenez des femmes, vous les encadrez, vous sortez même d'Abidjan aussi.
Ah ouais.
Quel est le retour finalement? Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on a des cas édifiants, satisfaisants?
Oui, on a vraiment des cas édifiés. Et on va dire que c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de faire le dîner gala pour présenter les acquis de l'ONG Jeunes Femmes.
C'était quand le dîner d'ailleurs?
C'était le 16 juin. Oui, le 16 juin 2023.
Un exemple de cas édifiant qu'on a pu présenter par exemple?
On va prendre comme on a nos femmes en zone urbaine, on a nos femmes en zone rurale. En zone urbaine ici, c'est des femmes qui ne savent même pas qu'elles-mêmes elles sont capables d'augmenter leur capital de par leurs propres moyens. Donc ce sont les femmes avec qui on a entrepris le projet Ma Bonne Semence. Voilà, c'est une épargne qui est, on va dire, qui n'est pas considérée, qui est dérisoire. C'est-à-dire, il y en a qui font 500 francs par jour, il y en a qui font 1000 francs. Ça dépend de leur capacité, en fait. Mais c'est de l'argent qu'elles dépensent, en fait, au quotidien, sans objectif, en fait. Voilà, donc on a amené ces femmes-là à faire cette épargne et aujourd'hui on a vraiment des femmes qui croient en elles parce qu'elles savent aujourd'hui que même si une personne extérieure ne vient pas leur donner de l'argent, elles sont capables d'elles-mêmes de renforcer leur capital. Donc c'est environ 1000 femmes qui sont inscrites dans notre programme qui depuis 6 ans vraiment se sentent bien dans leur peau. Parce qu'aujourd'hui, elles sont capables d'accompagner leur propre autonomisation.
Ok. Voilà. Depuis combien de temps l'ONG existe ?
Depuis 2017, et pour revenir aussi aux femmes qui sont en zone rurale, c'est des femmes qui sont souvent pas en association, qui ne sont souvent pas en coopérative. Voilà, donc on les détecte, on les met ensemble et surtout on les accompagne pour la formalisation, parce qu'il y a beaucoup d'associations aussi qui existent de nom. Voilà, mais pour qu'elles puissent capter des fonds, voilà, il faille qu'elles soient formalisées. Donc on a décidé de les accompagner nous-mêmes à la formalisation en rentrant en contact avec les autorités compétentes pour le faire. Donc aujourd'hui, ça permet à un groupe de femmes dans le département de Mbayakro de bénéficier de fonds qui sont mis à disposition pour soutenir l'autonomisation des femmes.
Ok, on va revenir pour savoir un peu comment vous allez vous y prendre pour que sur la durée, on puisse avoir des femmes qui puissent se distinguer justement sur le plan économique. On a un exemple palpable justement d'autonomisation, la marque Limas Air and Beauty avec Yao Louise Klaourou qui, à travers un sourire, nous montre que ça va depuis longtemps.
Ça va, oui.
Alors, cas pratique, comment vous, ça a commencé? Quel genre de formation vous avez eu? C'est vrai qu'on en a parlé il y a déjà 2 ou 3 ans quand même. Mm-hmm. On a de nouveaux aux auditeurs et de nouvelles auditrices qui ont besoin d'avoir des infos sur la façon dont vous êtes prise, comment tout a commencé et puis comment ça se passe aujourd'hui.
D'accord. Alors, il faut savoir qu'à la base, je suis très loin de la cosmétique. Je suis historienne de formation, spécialiste genre. C'est en cela que j'accompagne certaines ONG justement pour l'autonomisation des femmes et tout. Mmh. Et pendant la période Corona 2020, pendant la période où tout était presque fermé, je me rends compte que tous les salons de coiffure sont fermés. Étant une grande adepte des cheveux sains et beaux, en ayant moi-même, je m'inquiète un peu de ce que certaines femmes ne puissent pas faire leurs soins elles-mêmes. Donc je pose une question comme ça sur mes réseaux. Donc je demande, ah mais comment vous faites avec vos cheveux par ces temps où tout est fermé?
Il fallait vraiment manger aussi.
Et puis voilà, ça part dans tous les sens. Ah, je souffre, ah, j'ai X, j'ai les chili pellets, j'ai ceci, j'ai cela. Et comme depuis quelques années, à la suite d'une longue maladie, je m'étais moi-même... j'avais commencé à perdre mes cheveux avec les traitements que j'avais. Donc, je faisais mes soins. J'avais vraiment quelques produits que je fabriquais moi-même. De par l'historique cosmétique de ma famille, je suis à Caen, je suis baoulée. Donc, chez nous, on a l'huile noire et tout ça qu'on utilise pour les cheveux. Donc, je reviens à tout ça.
Donc, l'histoire revient également. Le fait d'être historienne.
Justement. Et donc, finalement, certaines me posent leur problème carrément. Non, mais j'ai ça. Est-ce que tu penses que tu peux me trouver une solution? Et ainsi de suite. Et donc, oui, de ce que je sais, je partage. Ouais. Et il y a une qui me dit, mais attends, il ne faut pas m'emmerder. Moi, je ne peux pas faire ça moi-même. Il faut faire, tu vois, me vendre. Je dis, mais attends. Du coup, oui. Donc, OK, ça peut créer quelque chose. Ouais, et comme je suis très digitale, pour éviter de produire en masse et de ne pas pouvoir vendre, je lance un formulaire de précommande en ligne. Et puis voilà, tout de suite, j'ai des nombres. Je dis, mais attends, il y a une niche. Je commence pas vraiment avec grand sérieux, mais je me dis, bon, au moins l'huile que je fais, je peux... Et donc, la semaine qui suit, on organise les livraisons et puis ça va comme ça. Ah, mais t'as pas une crème, ah, mais t'as pas un shampoing et ainsi de suite.
On commence à élargir le...
Voilà, donc d'un produit, là, on se retrouve à 13. On a commencé aux cheveux, on est en train de descendre au corps, bien sûr, avec différentes formations. Dont la principale, c'est Academy for Women Entrepreneurs de l'ambassade et de l'ambassade des États-Unis et de Impact Hub, que j'ai fini l'année dernière, où on m'apprend à rédiger un business plan, on m'apprend la gestion d'une entreprise, parce que je signale que jusque-là, nous ne sommes pas formalisés, parce que, encore une fois, ce n'est pas mon domaine de compétences, donc je me dis qu'il faut un maximum de background, donc j'accentue, je continue les formations pour pouvoir maîtriser le domaine et vraiment être, le mot m'échappe, mais pouvoir parler avec preuve, avec raison de ce que je fais et de ce que...
C'est crédible, peut-être.
Exactement,
aussi.
Pour avoir de la crédibilité, pour avoir de la résonance vraie, en fait.
Alors aussi, voilà. On revient un peu aux acquis, en termes de plus-value. Qu'est-ce qui a fait la différence entre l'initiative lancée auparavant et ce que vous ressentez après avoir reçu la formation?
Alors, la différence, c'est que je me projette. Parce que très sincèrement, quand j'ai commencé avec Limas Air, je ne me projetais pas. C'était quelque chose de l'instant, quelque chose de... Ils ont fermé les... On ne travaille pas, tout est fermé. Bon, voilà. Franchement, je n'avais aucune vision sur le long terme. Je ne me projetais pas du tout. Mais avec la formation, tu côtoies d'autres dames. tu vois d'autres personnes, et avec Impact Hub, où il y a un vrai suivi, il y a d'autres niveaux. C'est-à-dire qu'après nous, après notre formation, il y a d'autres formations de niveau plus élevé. Et tu te rends compte qu'il y a certaines dames qui vendent des chips et qui ont un chiffre d'affaires de 125 millions.
Oui.
Ouais. Parce qu'elles ont formalisé, parce qu'elles sont à l'affût des financements, parce qu'elles peuvent exporter, simplement. Ah, donc oui, avec ça, je me projette justement. Avec cette formation-là, je me projette et je me dis, ma fille, tu tiens quelque chose, voilà. Mon enfant, vas-y. Donc voilà comment ça commence et voilà comment on est en train d'orienter les choses. On est en train de finaliser la formalisation pour être en entreprise. Et puis, à partir de l'année prochaine, vraiment, on aura 4 ans. Ça fait quand même beaucoup. Mm-hmm. C'est un enfant, il sera en train de partir pour la maternelle.
On prépare les 5 ans.
Voilà, on prépare les 5 ans et voilà, avec un local et tout ce qui va avec.
Alors, en termes de transmission également, vous avez reçu de la formation, vous n'arrêtez pas là, vous avez décidé également de passer l'info aux plus jeunes.
Oui.
Récemment, vous avez été auditrice de formation, c'était quoi réellement?
Alors, dernièrement, j'ai été contactée par un groupe de jeunes d'Abengourou pour aller former, et comme vous demandiez tout à l'heure, pour aller former les jeunes dans leur ensemble, hein, femmes comme jeunes garçons, justement sur la conscience de soi. Déjà ça, la conscience de soi. De savoir
la conscience de soi.
Oui.
On sait quoi?
Peut-être que c'est nouveau, je ne sais pas. Mais
on connaît confiance en soi.
Non, on est même pas encore dans la confiance, parce qu'il faut savoir qu'on est et qu'on peut déjà. Il faut savoir qu'on est et qu'on peut. Et donc, moi, quand j'arrive dans cette ville-là avec un parterre de 200-300 jeunes qui, visiblement, sont à l'intérieur du pays, pensent ne pas être à l'affût des opportunités, pensent n'être personne déjà.
Dans une résignation déjà.
Justement.
Finalement.
Donc, il faut amener ces jeunes à avoir une conscience de soi, de savoir que peu importe le milieu d'où je viens, je peux apporter quelque chose à mon pays, je peux changer quelque chose. Ne serait-ce qu'en regardant mon environnement, je peux trouver une solution que je vais apporter. Je peux amener un élément nouveau qui, par derrière, va me ramener de l'argent. Parce que franchement, avec, comme je l'ai dit tantôt, avec l'IMAS Air, c'était pas dans le but de. C'était vraiment pas une stratégie élaborée. Parce que digitalement, on accompagne des entreprises, on accompagne des institutions. Et il y a une stratégie pour lancer un produit.
Ouais.
Mais je n'étais pas dans cette optique-là. J'ai juste constaté un problème et dans mon questionnement, dans la recherche de solutions, je me suis retrouvée à être transformatrice. Voilà. Donc, pour dire qu'il suffit de regarder l'environnement. Donc, on part déjà sur cette base-là. Après, on part sur la confiance en soi, le développement personnel. C'est des éléments dans lesquels j'ai été moi-même formée par l'ambassade des États-Unis et que j'apporte à plusieurs ONG, avec la POJAFSI, je crois que j'ai fait des formations au sein de Jeunes Femmes Lève-toi, ah, avec l'AILV, avec Être une Femme, beaucoup d'autres entités. J'ai moi-même été présidente d'une association de jeunes et tout. Donc, avec beaucoup d'autres entités, on essaie de redonner ce qu'on a appris. On essaie d'aller vers eux pour leur dire que ce n'est pas perdu. Que vous soyez analphabète, que vous soyez d'un milieu très précaire, ce n'est pas perdu. Vous ne savez même pas d'où moi je viens. Et vous ne savez pas comment ma scolarité s'est faite. Du coup, il ne faut pas tout de suite penser que... Il ne faut pas tout de suite penser que non, c'est les enfants d'eux, eux, ils ont pu, eux, ils sont comme ça.
En haut, comme disent les gens.
Voilà, les
Alors,
enfants
d'eux. Quand on a lu confiance en soi, mais avant ça, conscience de soi, jusqu'au développement personnel et tout, c'est un regard que je demande à mes deux invités. Comment on peut expliquer que certains, justement, puissent être à l'affût pour détecter les acquis, détecter leurs potentialités? Et pourquoi pour d'autres, c'est un grand laxisme? Est-ce que c'est parce qu'on en est en agglomération, pour l'autre, on est en zone rurale?
Je pense que ça part du milieu. Ça part du milieu. Il y a des enfants de familles très modestes, mais qui n'ont pas eu à entendre des rabrouements, parce que ça part de là aussi, avec les parents. Toi, tu es qui? Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu es enfant de qui? Et ainsi de suite. Ouais. C'est vrai qu'il faut savoir d'où on vient pour se comporter en fonction, mais en termes d'intelligence, en termes de capacité intellectuelle, le niveau importe peu, le milieu importe peu.
Le milieu importe peu, c'est vrai.
À partir du moment où on a tous et toute la chance de fréquenter une école, on peut s'en sortir.
En preuve, nos grandes élites sont venues des écoles primaires des villages.
Et de ce que je sais, dans le Nord, quand l'école, le colonisateur est arrivé, c'est les enfants d'esclaves qu'on donnait. Parce qu'on pensait qu'on partait les tuer, on partait les maltraiter, on partait les vendre, puisqu'il y avait encore la hantise du travail forcé, la hantise de l'esclavage et tout ça. Donc, c'était les enfants de Kanga qu'on donnait. Donc, c'est des enfants-là qui sont devenus grands types et qui ont réorganiser, on va dire, les choses dans ces régions du pays-là. Donc oui, l'école est une véritable chance. Et même quand on n'a pas l'école, vous avez des femmes. J'ai rencontré dernièrement la présidente des femmes transformatrices et, je crois, planteur de café cacao de Côte d'Ivoire, qui n'est jamais allée à l'école, qui a une soixantaine d'années, mais qui regroupe plus de 143 coopératives. Il y a une chose qu'il faut, l'accès à l'éducation, j'ai envie de dire occidentale pour préciser, et l'intelligence sont deux choses différentes.
Oh, totalement.
Quand on a cette intelligence-là qu'on peut mettre avec, ensemble avec l'éducation, on peut aller beaucoup plus vite. Par contre, vous avez des personnes qui savent qu'elles peuvent aller loin, même sans l'école. Donc tout dépend du milieu. Si vous êtes dans un milieu où on vous dit tout le temps que vous ne pouvez rien, vous n'allez pas y arriver, ça peut jouer. Par contre, vous pouvez ne même pas être d'un milieu. Moi, on m'a demandé à une première émission qui est mon mentor. J'ai dit, c'est ma grand-mère. Parce que c'est celle-là que j'ai vu se débattre pour toute la famille. Même pas pour ses enfants, pour ses frères et sœurs, à les scolariser, à scolariser les enfants de ses sœurs et ainsi de suite. Mais je veux dire, je n'ai pas été en contact très tôt avec le mentorat, avec le développement personnel. J'avais presque 30 ans quand je suis entrée en contact avec toutes ces choses-là. Mais j'avais ça en moi. Parce que je savais que je pouvais y arriver. C'est pour ça que je parle de scolarité, on ne sait pas qui est qui. Je me suis retrouvée à un moment de ma vie seulement avec un stylo et un cahier. Mais je me suis dit, j'y vais. Parce que j'avais un exemple de hargne devant moi. J'avais ma grand-mère qui faisait tout ce qu'il fallait pour vraiment porter la famille et tout. Et donc, je pensais que je pouvais y arriver. Bon, je pense que je suis plus ou moins arrivée.
On n'est pas loin de...
Voilà, donc c'est le milieu. Okay. Le milieu va déterminer qu'on soit laxiste ou qu'on soit vraiment jusqu'au boutiste, qu'on y aille avec les moyens qu'on a. C'est vraiment le milieu. Et après, en fonction de qui on est, on se construit. Quand on a justement conscience de soi, on construit sa confiance en soi. On continue de se former, de se développer. Et je pense qu'on arrive à côtoyer les sommets qu'on souhaite.
Vous entendez en ce moment Yao Louise Klaourou, créatrice de la marque Limas & Beauty. Elle est là pour nous parler justement de l'autonomisation de la femme, comment elle a pu s'organiser pour avoir ce niveau minimal justement de réussite. Et puis elle parle également de transmission à ses jeunes sœurs. Nous sommes également avec Philomène Kofi, présidente de l'ONG Jeunes Femmes, lève-toi. Elle s'est déjà levée. Alors, comment vous arrangez pour justement insuffler cette dynamique à toutes ces dames? On a certaines qui sont un peu sceptiques, qui se disent, est-ce que ça va être gérable? Souvent, on a même la pesanteur familiale. On a le mari à gérer, parce que quand on devient trop femme d'affaires, on peut avoir quelques soucis à la maison, parce qu'on a l'impression que le monsieur commence à craindre des choses. Comment vous gérez tout cela?
D'accord. Il faut dire que tout à l'heure, ma consoeur, Madame Yao, elle a soulevé quelque chose qui est très important, la conscience de soi. Bon, moi, je pense que tout est parti de là, parce que tout démarre par un déclic. Voilà, c'est vrai, on a l'environnement, mais on n'a pas tous l'opportunité d'être dans un environnement où effectivement, on nous dit, oui, vas-y, voilà, tu as les aptitudes qu'il faut. Arrivé un moment de la vie, il faut toi-même te dire que tu es capable d'accomplir ce que les autres ont accompli. Et moi, je pense que c'est de là que tout est parti. C'est-à-dire, je ne me suis pas cantonnée dans un environnement. Je me suis dit, mais tiens, je vois des exemples de réussite, voilà. Donc, qu'est-ce que moi, je peux apporter? Donc, ce que je pouvais apporter, j'ai commencé tout de suite à le transmettre à d'autres jeunes femmes, d'autres jeunes filles, parce que j'ai commencé un peu tôt quand même. Voilà, j'ai commencé à dire, et là, on est capable d'accomplir les choses, il faut juste avoir conscience et avoir confiance. Voilà. Et comme la Bible dit, à comment je vais paraphraser, voilà, ça c'est quand on veut sortir le mot. Non, il y a des résolutions,
on prendra
le succès, mais il y a une autre maxime en fait qui m'échappe, mais je pense que je vais revenir là-dessus. Mais pour dire que le Seigneur nous a donné vraiment la capacité de nous surpasser, parce que lui-même il est en nous.
Les talents.
Donc c'est de croire, moi c'est ça. C'est de croire et d'emmener d'autres personnes à croire. Et je pense qu'on y arrive.
Vous avez besoin de certains moyens déjà, parce que pour monter l'ONG, non seulement c'est vrai que c'est des documents qu'il faut avoir, mais il faut déjà des premiers moyens pour lancer les opérations. Comment ça s'est passé à ce niveau-là?
J'aime ce dicton qui dit « partir de zéro pour devenir un héros ». Chez nous, le facteur argent, on ne met pas vraiment l'accent dessus. C'est vrai qu'on incite, on encourage les personnes à à avoir cette autonomisation financière. Mais déjà, c'est de concevoir le projet dans l'esprit. Et quand on conçoit le projet dans l'esprit, je veux faire ci, moi je me dis tout de suite, les moyens vont commencer à se mettre en place. Donc quand nous avons commencé avec « Jeune femme, lève-toi », déjà il faut dire que « Jeune femme, lève-toi », c'était d'abord... le mouvement des jeunes femmes de Gestemané. Donc, c'est un mouvement chrétien. Voilà, on est dans ce mouvement-là. Et on encourage les filles à dire que c'est vrai qu'il faut prier pour attendre qu'un homme vienne faire tout. Mais aujourd'hui, il faut travailler pour qu'un homme vous jette le regard.
Est-ce qu'il y en aura même pour faire tout?
Alors, pourquoi Louise fait cette tête-là?
Non, parce que ça n'existe plus, ça, qu'un homme fasse tout.
Voilà.
Tu vas te sentir mal, toi.
Mais ça, quand on n'a pas conscience, et donc on se retrouve à dire, mais tiens, mais le Seigneur, il fait pas ci, il fait pas ça pour moi, alors que nous avons tous les moyens d'accomplir et de réaliser de belles choses. Donc, on sort de là. On veut, en fait, impacter un plus grand nombre de femmes. Donc, d'où la naissance de Jeunes Femmes, Lève-toi. Voilà. Les moyens, dans tous les cas, pour une organisation, il faille 3 personnes. Donc, tout de suite, avec le peu qu'on a, on croit. C'était d'abord de croire en la vision. Est-ce qu'on pense qu'on est capable d'impacter? Est-ce qu'on est capable d'emmener des jeunes filles, des jeunes femmes à se lever? Quand on a dit oui, alors je pense que les moyens se sont décidés. Voilà.
Comment vous gérez pour la suite la façon dont elles ont besoin, à partir de la condition humaine, de tenir face au pesanteur sociétal, face aux parents, face à l'époux, la gestion des enfants, question partagée?
Bon, moi je pense qu'on essaie de développer en elles la confiance. Vous savez, on vit dans une société, la société a ses réalités. On ne fait pas forcément fi, mais je me dis qu'en toute chose, il y a la stratégie. Voilà, moi je suis épouse. Je suis mère de 4 enfants, mais ça ne m'empêche pas de rêver, ça ne m'empêche pas surtout de réaliser mes rêves.
Vous partagez votre expérience aux autres dames, peut-être
tout,
aussi.
Tout est dans la communication, tout est dans le dialogue, tout est dans la stratégie. Voilà. Déjà, j'aimais titiller mon mari, lui dire, voilà, tu sais, on nous a tous bastonnés à l'école, voilà, pour qu'on ait des rêves. Ouais. Voilà, donc ma condition d'épouse ne doit pas m'empêcher de rêver. Et c'est... Je vais dire, on essaie de faire une planification. Voilà, la planification de nos projets, la planification de notre rôle en tant qu'épouse, en tant que mère. Et quand c'est bien planifié, je pense que le mari n'a aucun intérêt. Même la famille n'a aucun intérêt.
Aucun intérêt à se poser. Louise, avec vous, c'est quelle astuce? Comment gérer? C'est tranquille. On n'a pas toujours les mêmes chances aussi. Hein.
Moi, je suis très jeune.
En région, on a des femmes qui ont toutes les difficultés. Ça peut arriver
oui,
aussi.
Oui, clairement. Alors, moi, je suis très jeune. Par rapport à Madame Kofi, j'ai moins d'expérience par rapport à elle. Mais ce que je dis et ce que je fais pour amener vraiment les jeunes épouses à pouvoir concilier activité, association et vie maritale, c'est comme elle a dit, de communiquer. Mais de savoir avec qui on vit. Il faut vraiment savoir avec qui on vit. Il y a des hommes à qui il faut demander si elle était après un bon repas. Il y a des hommes à qui il faut demander si elle était, ils vous donneront après une bonne nuit de sommeil. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'embêter la nuit. Et puis vous avez votre maman qui va vous dire, à 4h du matin, si tu veux parler à ton mari, mais tu connais ton homme. Tu sais qu'à 4h, si tu le réveilles, il est grognon. Donc tu ne le réveilles pas à 4h.
Donc il faut bien se connaître avant de se mettre
ensemble. Exactement. Il faut connaître avec qui on est. Il faut savoir ses habitudes, ses péchés mignons, comme on dit, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et en fonction, s'organiser. C'est tout. Il faut pouvoir s'organiser. Et quand on pense que, parce que ce soit dans le monde associatif ou comme en entrepreneuriat, vous avez des opportunités ou des activités qui vous tombent là-dessus. Et puis vous dites, ah tiens, c'est une bonne opportunité, il faut que j'y aille, et ainsi de suite. Quand c'est comme ça, il faut pouvoir communiquer assez tôt avec l'autre pour qu'on puisse se réorganiser. Il ne faut pas attendre de faire subir l'événement à l'autre. En fait, il faut communiquer simplement. Il faut savoir s'adapter. Voilà. On ne peut pas donner un conseil standard, mais il faut pouvoir, en fonction de avec qui on vit, en fonction de l'environnement, si on a des enfants à l'école, si on a des enfants et ainsi de suite, s'organiser. Quand les enfants sont un peu plus grands, pouvoir les impliquer aussi.
C'est ça.
Donc, ok, tout passe par la communication.
Exactement.
On retient ça. Un petit mot, regard sur l'autonomisation par tous les moyens. Se chercher, chercher de l'argent. On a aujourd'hui des vidéos qui circulent toujours sur les réseaux sociaux. On danse comme on peut. On a des nudes, on a des tenues obscènes parce qu'on veut se faire de l'argent. C'est une réalité, on ne va pas se le cacher. Un regard sur toutes ces pratiques, c'est vrai que les jeunes hommes ou les jeunes dames le font, mais de façon générale, qu'est-ce qu'on a à dire sur cela? Est-ce qu'il y a des codes d'autonomisation? Est-ce qu'on respecte certaines normes morales? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, il faut dire que les valeurs et tout ce qu'un ancien appelait la honte sont des choses qui
disparaissent.
Voilà, qui disparaissent véritablement. Mais en même temps, je pense que votre génération, et je vous indexe, et la génération d'un peu avant vous, a commencé à instaurer l'argent comme fait essentiel ou bien élément essentiel.
D'affirmation de soi.
D'affirmation de soi, mais de réussite sociale.
Oui.
À partir du moment où on n'est gêné par rien pour faire de l'argent, à partir du moment où des personnes ayant de l'argent, de on ne sait comment, sont mis sur des piédestals, sont adulées, sont regardées comme des personnes,
des mentors, des modèles de réussite.
À partir de ce moment-là, vous avez des plus jeunes. Donc oui, les plus jeunes sont en perte de valeur, mais c'est parce que quelqu'un a raté la transmission.
C'est ça.
Qui sait? En tout cas, ce n'est pas notre génération.
Non, ce n'est pas la nôtre également. Il y a un proverbe qui dit
Qui a raté la transmission?
Les enfants écoutent plus ce que nous faisons que ce que nous disons.
Justement, si vous êtes dans un univers, même si l'enfant a 3 mois, et que vous êtes toujours comme ça, cet enfant-là va chercher à arracher le téléphone.
Déjà, quand il marche à 4 pas, il veut tapoter le téléphone.
Avant même qu'il ne marche, vous êtes tout entendu. Place-toi. Place-toi. Bon, il sait qu'on se place avec le téléphone. Donc, l'enfant n'a même pas 1 an qu'il se place avec le téléphone. Après, vous ne voulez pas qu'il mette une caméra, qu'il mette une lumière pour danser? Ah! Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on est tous coupables.
Un questionnement et puis...
Certains, parce qu'ils se taisent. Certains, parce qu'ils n'ont pas fait leur rôle de parents. Et d'autres, parce qu'ils n'ont pas honte de prendre l'argent d'un mineur qui ramène de l'argent de on ne sait où.
C'est ça.
Utile d'en parler. Merci à Louise Claourou. Avec vous, Philomène Koffi.
D'accord.
Même question.
Oui. Je pense que madame a touché quelque chose de très important. C'est la transmission des valeurs. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel modèle, quel type de modèle on est à la recherche de quoi, en fait.
Ah.
Voilà. Donc, les valeurs sont en train de disparaître. On a aujourd'hui, on va dire, même la télévision se regarde peu maintenant. Nos enfants sont plus sur les réseaux sociaux. Et comme ce sont des enfants, généralement, ce que l'enfant voit, c'est ce que l'enfant copie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a la démission aussi des parents. Voilà. Il faut permettre à l'enfant d'être à l'aise et on ne fait même plus de contrôle, en fait. On sait plus à quoi nos enfants sont livrés, parce que soit on est occupé, effectivement, à courir derrière l'argent. Il faut avoir l'argent pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Et nos enfants, malheureusement, qui sont sur les réseaux sociaux,
copient
le mauvais modèle. Voilà, c'est surtout ça. Parce que quand le mauvais modèle est présenté comme le modèle idéal, ben bon, on se dit que c'est ce qu'il faut.
Après, l'éducation se fait par imitation,
fait beaucoup de
bruit,
justement.
Oui, mais en même temps, je pense que on a encore, même dans cette génération, nous les parents, nous avons des valeurs à transmettre. Et moi, je fais fort de transmettre ces valeurs, non pas seulement à mes enfants, mais aussi aux jeunes dames que nous coachons, que nous encadrons. Voilà. Et là, on a réussi à recadrer un bon nombre de jeunes femmes et leur dit ce que vous voyez n'est pas la réalité, mais ce que vous êtes capable de créer sera votre vérité, en fait. Voilà. Donc, il faut être capable d'apporter quelque chose et surtout d'être un très bon modèle à la fin de toute chose. Voilà.
Merci, chère dame. Je rappelle donc que nous étions avec Yao Louise Claourou, créatrice de la marque Limas Air and Beauty, et puis Philomène Koffi, présidente de l'ONG Jeune Femme Lève-toi. En mot de fin de part et d'autre, je rappelle que nous étions avec Yao Louise Claourou et Philomène Koffi pour parler justement d'autonomisation de la femme, divers angles, divers sujets qui reviennent comme ça à chaque fois. Et c'est toujours un plaisir renouvelé pour nous de les retrouver. Alors, on termine avec vous, Philomène Koffi, mot de fin, quel message apporte aux jeunes, aux personnes qui nous suivent? On parlera pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes en général.
C'est de demander aux femmes, de demander aux jeunes, et comme je dis, que ce soit jeune femme, que ce soit jeune homme, voilà, de se lever comme notre slogan le dit. Voilà, on a notre contribution, on a notre apport pour le développement, pour la cohésion de notre nation, et cela requiert vraiment la force vive de tout le monde. Voilà, donc nous avons à prendre conscience de ce que notre belle nation a besoin de nous, tant pour son développement, tant pour, on va dire, sa richesse économique, mais surtout pour la cohésion, parce qu'aujourd'hui, on est dans des temps sensibles, on parle beaucoup d'élections. Voilà, et quand on entend élections, c'est lentise, tout le monde a peur, on ne sait pas ce qui va se passer.
Ceux du village, ceux du village viennent en ville.
Oh, voilà, ça encore. Aujourd'hui même, on est en train de mettre quand même une stratégie pour que ceux qui sont au village se sentent à l'aise au village. Mmh. Voilà, et j'aime à dire que dans certains pays, les plus riches sont les agriculteurs, les agricultrices. Donc, il ne faille pas fuir la campagne pour venir en ville. Voilà, donc j'encourage tous les jeunes, tous les jeunes hommes, toutes les jeunes femmes à se lever. Voilà, okay. J'insiste là-dessus.
Merci, on espère que le message est bien passé.
Comme on dirait dans une église, mon frère, ma soeur, lève-toi.
C'est ça.
Et donc, pour parler plus sérieusement, vous savez, aujourd'hui, avec le beurre de karité et le kondou, comme on dit chez nous, les baoulés du centre, je fais quelques chiffres. Ça veut dire qu'à côté de toi, il y a quelque chose qui peut te permettre de changer ton quotidien.
Merci pour le message. Portez-vous bien et puis bonne suite des programmes.